même si ça fait 2000 ans peut-être qu'il a été écrit, des vérités tellement actuelles qu'on a besoin d'entendre, que l'Église de Christ a besoin d'entendre encore aujourd'hui. Et ça va être un privilège de pouvoir vous apporter plusieurs des prochaines prédications dans l'Épître aux Galates. Et ce matin, on commence la lecture dans Galates au chapitre 1. On va lire les versets 1 à 10. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur Jésus, on l'a chanté. On l'a célébré avec le repas du Seigneur. Tu t'es donné pour nous, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Tu nous as donné cette bonne nouvelle qui fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais parfois, Seigneur, on peut avoir tendance à se détourner de cet évangile pour croire ce que notre culture enseigne ou ce que même des gens dans l'Église peuvent enseigner, Seigneur, pour se détourner de l'évangile. Et ce matin, Seigneur, on veut regarder à ta parole pour apprendre de toi, Seigneur, afin que nous puissions trouver dans ta parole ta sagesse pour marcher dignement pour l'évangile de Christ, le seul évangile qui existe. Seigneur, ce matin, on est rassemblés en ton nom. Et je suis convaincu, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Tu habites au milieu de nous par ton esprit. Ton esprit habite nos cœurs, Seigneur. Et nous sommes tous, incluant moi, Seigneur, devant toi ce matin, parce qu'on veut apprendre de toi par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir un esprit ouvert, des pensées claires, afin qu'on puisse saisir ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, on veut t'entendre nous parler ce matin à travers ta parole. Et ma prière, c'est que tu puisses faire de moi un serviteur utile ce matin, de me remplir de ton esprit afin que je puisse communiquer calmement et clairement la vérité de ta parole, afin que ton Église puisse vivre l'Évangile avec passion. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. C'est toujours un défi de commencer une série, de l'introduire et de prêcher un message lorsqu'on a beaucoup de choses dans une célébration. Et puis, mais ce matin, je vais essayer de respecter le temps, de respecter votre temps, mais qu'on puisse regarder ensemble ce merveilleux épître que Paul a donné aux églises de la Galatie. Le 24 juillet 1967, il y a un représentant français qui s'est présenté ici à Montréal et qui a prononcé des paroles qui ont changé, qui ont provoqué des événements, qui ont changé le visage politique du Québec depuis cet événement-là. Certainement, ça avait probablement été influencé auparavant, mais c'est venu, avec lui, ça a déclenché. Et ce représentant français, certains l'ont déjà identifié, le reconnaissent, c'est le général Charles de Gaulle, qui a prononcé les paroles « Vive le Québec libre ». En prononçant ces paroles-là, le général de Gaulle voulait donner une confiance aux Canadiens français, une certaine liberté pour qu'ils puissent s'épanouir au milieu d'un Canada anglais. Il voulait peut-être leur accorder et les lancer vers une liberté politique. Vous connaissez tout ce qui s'est passé, peut-être pas toutes, mais beaucoup de choses qui se sont passées depuis. On en parle encore. Le Québec veut être libre, veut être indépendant, etc. Tout ça pour dire, je ne vous dirai pas quelle est ma position politique ce matin, mais tout ça pour dire qu'au Québec, on recherche la liberté. On veut être libre. Et je discutais avec un jeune homme dernièrement, et on essayait d'identifier des valeurs importantes chez les Québécois, et une de ces valeurs-là, c'est la liberté. Au Québec, on a soif de liberté, on veut être libre. On donne plusieurs définitions au mot « liberté », mais je pense qu'une de celles qui colle le mieux aux Québécois se limite à ceci, l'absence de contraintes. Je veux être libre. Libre veut dire absence de contraintes. Je n'ai aucune contrainte, je peux mener ma vie comme je veux et comme société, on veut vivre notre liberté. On a tendance naturellement à vouloir se dégager de toute contrainte. On veut se dégager des contraintes, puis on veut empêcher ce qui pourrait nous limiter dans nos droits. Et dans notre société, il y a plusieurs exemples où on parle de liberté. Au Québec, on parle de la souveraineté puis de l'indépendance, comme je l'ai dit, suite aux paroles du général de Gaulle, liberté politique. On parle aussi de liberté d'expression. L'an dernier, avec le passage de la loi, l'acceptation de la loi 78, pendant le printemps érable, plusieurs ont dénoncé leur droit de s'exprimer par des manifestations. On veut être libre de faire des manifestations quand on veut et pour les raisons qu'on veut. On ne veut pas être contraint, on veut être libre. Avec la croissance de l'immigration, on parle aussi de liberté de religion. Et surtout récemment, depuis la commission Bouchard-Taylor, on se demande jusqu'où va cette liberté. Donc, on veut être libre, mais en même temps, on n'a pas le choix. Il faut définir qu'est-ce qui contraint, jusqu'où on peut être libre. D'autres éléments où on parle de liberté depuis la fin des années 60, on parle ici et ailleurs du mouvement de libération des femmes. Les groupes féministes sont unis pour donner à la femme plus de liberté et remettre en valeur l'égalité des sexes. Chez les ados, on veut être libre de nos parents. Fini l'autorité parentale, l'absence de contraintes qui fait que je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Ça nous caractérise. La recherche de liberté, l'absence de contraintes, c'est un sentiment présent chez l'être humain. C'est une question aussi importante pour les chrétiens. La liberté, on voit que c'est un sujet qui est adressé dans les Écritures. C'est important aussi pour les chrétiens du premier siècle. Et Paul va écrire l'Épître aux Galates avec un sujet principal qui est la liberté. Cette liberté que Paul décrit dans le livre des Actes, c'est la liberté qui surpasse toute autre liberté. C'est une liberté spirituelle. C'est une liberté par rapport à la loi, le pouvoir de la loi qui nous condamnait en raison de notre désobéissance. Et donc, Dieu avait donné sa loi, mais la loi avait fait en sorte qu'on avait désobéi et on était jugé par cette loi. Christ vient, nous libère de cette malédiction qui reposait sur nous, et nous donne la vraie liberté. En chapitre 3, je vous invite à tourner avec moi, chapitre 3, verset 10, Paul parle de cette liberté par rapport à la loi et mentionne au verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, si je n'ai pas observé tout, si j'ai manqué à un commandement, je suis maudit parce que je n'ai pas tout observé. Mais qu'est-ce que Christ vient accomplir, verset 13? Christ nous a rachetés ou nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et donc, plus loin, vers chapitre 5, verset 1, Paul va dire « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi et est venu pour nous donner la liberté, une liberté qu'on trouve seulement en lui. » Ainsi, par la foi dans ce que Christ a accompli, on n'est plus sous le pouvoir de la loi. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi qui reposait sur nous en raison de notre désobéissance. Nous sommes libres de la loi et de sa malédiction. Mais dans l'Épître aux Galates, Paul adresse un problème dans les églises. On peut revenir au verset, au chapitre 1. Les Galates avaient commencé à accepter des faux enseignements. Et en acceptant ces faux enseignements-là, on était venu à abandonner l'Évangile de Christ et se détourner de la liberté qu'ils avaient obtenue en lui. Et le problème que Paul avait identifié dans les églises, c'est aussi un problème qu'on rencontre souvent dans nos églises aujourd'hui. Mais ce qu'on doit retenir ce matin, c'est que l'Évangile de Christ nous libère et il n'existe aucun autre évangile, car l'Évangile de Christ est le seul qui sauve et qui libère. Christ est venu apporter un message de liberté et il n'existe aucun autre message, aucun autre évangile, parce que ce que Christ nous a apporté, c'est ce qui nous sauve et nous libère réellement. Et on va voir ensemble ce matin trois éléments qu'on doit être conscient par rapport à notre relation par rapport à l'Évangile. Premièrement, on doit considérer notre problème par rapport à l'Évangile. Et on va voir dans le chapitre que c'est un problème dans l'Église aux Galates, mais qui nous caractérise aussi. Deuxièmement, on va voir qu'est-ce que c'est réellement la vérité de l'Évangile de Christ. Et troisièmement, notre responsabilité par rapport à l'Évangile de Christ. Premièrement, on va considérer le problème de l'Église, des églises en Galatie, en regardant plus profondément les versets 6 et 7. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Galates avaient un problème sérieux avec l'Évangile. Et Paul va dire, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. » Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'Évangile de Christ. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Il y a des gens qui troublent l'Église par des enseignements qui font en sorte que l'Évangile est déformé. Ce qu'on dit altéré, ça peut dire aussi déformé. L'Évangile est déformé et qu'est-ce que ça a pour effet? C'est plus l'Évangile et les gens sont en train de se détourner de la grâce qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Ils enseignaient un évangile différent de celui qu'ils avaient reçu. Ils déformaient l'évangile de Christ et ça donnait un autre évangile. Pour eux, pour les Galates, l'évangile de Christ était plus suffisant. C'était pas suffisant. Il fallait ajouter un petit peu à ce que Christ avait accompli pour que ce soit correct. Et on parle entre autres des œuvres de la loi. On voit dans le reste de l'Épître que certains viennent ajouter à l'Évangile en disant qu'il faut observer certaines lois pour être certain qu'on est sauvé. L'Évangile n'est pas suffisant. Ils ajoutent des choses par rapport à l'Évangile. Et en faisant ça, Paul dit qu'ils sont en train de se détourner de l'Évangile de Christ. On va voir ensemble quelques problèmes. Parce que le problème qui est manifesté par les églises dans cette Épître-là, c'est un problème qu'on a, qu'on vit nous aussi. Et le problème, c'est qu'en faisant, on remplace l'Évangile en disant l'Évangile n'est pas suffisant pour nous. Ce que Christ a accompli, c'est pas complet, j'ai besoin d'ajouter ou je peux pas mettre ma confiance là-dedans, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est pas ce que Christ accomplit pour moi, mais ce que moi j'accomplis. Et là, on inverse les rôles. Christ a accompli quelque chose, c'est pas suffisant, j'ai besoin d'y mettre du mien puis d'accomplir quelque chose. Donc, mon salut dépend pas de Christ, du moins pas seulement de lui, mais aussi de moi. Et il y a trois façons d'exprimer cette idée-là que l'Évangile n'est pas suffisant pour nous. Premièrement, on peut carrément rejeter l'Évangile. On peut définir par nous-mêmes le moyen par lequel on peut être sauvé. Autrement dit, croire à l'Évangile, c'est pas nécessaire. Plusieurs non-chrétiens vont dire ça, vont rejeter l'Évangile. Je n'ai pas besoin de ça, moi, l'Évangile. Et même aussi, certaines églises un peu plus libérales qui ne croient pas à ce que Christ a accompli sur la croix comme étant un sacrifice à notre place, mais plutôt comme un bel exemple qu'on doit suivre, ça abandonne l'Évangile en le rejetant. Et donc, croire à l'Évangile, ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on croit, mais qu'on soit des bonnes personnes. Je n'ai pas besoin de croire à ça. Je n'ai pas besoin de croire le message de l'Évangile. Ce qui compte, c'est que je sois une bonne personne devant Dieu, puis Dieu va m'accepter. Mais en croyant ainsi, on rejette la parole de Dieu et l'Évangile de Christ pour se former un Évangile selon notre propre conscience. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je crois. Ce qui est important, c'est ce que je suis comme personne. Je vois une petite contradiction ici, parce que tu vas agir selon tes convictions, donc tu crois quelque chose. Et si tu crois que tu dois être une bonne personne, tu crois quelque chose. Ce qui est important pour toi, c'est ce que tu crois finalement. Mais tu crois d'autre chose. Fait que, on croit tous quelque chose. On croit que tu peux croire que c'est une bonne personne, puis c'est ça qui compte. Pour toi, ce qui compte, c'est d'être une bonne personne. Alors que ce que Christ est en train de dire, ce que l'Évangile dit, c'est que Christ est le seul, la seule bonne personne qui peut te sauver. Donc, croire à l'Évangile, ce n'est pas nécessaire. Je le rejette et je me forge une religion pour moi-même où j'emprunte de tout ce qui se fait dans le monde pour me l'approprier et dire ça, c'est comme ça que je vais vivre. Donc, en pensant ici, on dit ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu a révélé, ce n'est pas important, c'est plutôt ce que je pense qui est important. Mais ça, c'est un problème. On a besoin de croire à l'Évangile. On va voir plus loin qu'est-ce que dit l'Évangile exactement. Un autre problème, une autre façon de démontrer que l'Évangile n'est pas suffisant, mais qu'on retrouve un petit peu plus dans nos églises, c'est qu'on veut ajouter à ce que Jésus a accompli pour nous. D'autres vont reconnaître que certains vont reconnaître que le véritable problème, c'est le péché, puis qu'on a besoin d'être pardonné. Mais la solution que Jésus a donnée n'est pas suffisante. Ce que Jésus est venu accomplir, ce n'est pas suffisant. Puis cette façon de penser-là, c'est parfois très subtil, puis ça vient dans l'Église. C'est une façon de penser qui dit Jésus plus quelque chose me donne le salut. Plutôt que, pour vous dire comme un certain auteur, Jésus plus rien égale tout. Ce que j'ai, dans le fond, en Jésus, j'ai tout. OK? Mais comment ça se manifeste, ça, chez les croyants? D'ajouter un petit quelque chose qui fait que Dieu va être mieux, meilleur envers moi. Dieu, il va m'accepter plus. En fait, ce qu'on manifeste, on va dire, souvent, c'est que pour être sauvé, tu as besoin de t'abandonner à Jésus-Christ, de lui donner ta vie, de lui demander pardon, il va te pardonner. Mais c'est important aussi d'avoir une bonne confession de foi puis des bons comportements. Et c'est vrai, il faut avoir une bonne confession de foi et des bons comportements, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va me rendre juste devant Dieu aussi. Plutôt que de dire, Christ me justifie et par la suite, j'ai une bonne foi, je crois la doctrine de la parole et j'ai des bonnes actions, je le place après. Je crois en Jésus-Christ, j'ai des bonnes actions, des bonnes paroles, je crois à la parole et donc je suis sauvé. C'est une façon de faire, de placer la doctrine comme un élément nécessaire au salut. Et donc, Christ n'est pas suffisant. Une autre façon, je pense que je suis réellement sauvé. Christ a tout accompli pour moi. Mais pour que Dieu m'accepte réellement, il faudrait que je fasse des bonnes œuvres. C'est comme si ma position devant Dieu, c'est « Tu m'as accepté, merci, mais je vais essayer d'être meilleur. Puis comme ça, tu vas m'aimer plus. Je vais faire des œuvres qui vont faire en sorte que ma position devant Dieu va changer. » J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui disait je crois que Jésus me sauve, mais il me semble qu'il faudrait que je fasse de quoi de plus. Jésus plus quelque chose, un autre évangile. Les œuvres sont là pour manifester qu'on a cru à l'évangile et qu'on est un enfant de Dieu. on les manifeste. Ils ne sont pas nécessaires pour notre salut. Combien de fois, moi-même, j'ai fait cette erreur-là? Je vis un moment plus difficile spirituellement. Je me présente devant Dieu, puis j'en fais pas assez pour toi, Seigneur. Il me semble que j'aurais dû faire ça, ça, puis ça, tu aurais été content de moi si j'avais fait ça. Et lorsqu'on fait ça, on remet en question l'Évangile. Parce qu'on pense que notre position devant Dieu dépend de nous. Oui, de Jésus, mais moi. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on change l'Évangile, puis c'est plus l'Évangile. L'Évangile, c'est que Christ tout accompli. Puis qu'en lui, j'ai le pardon. Et qu'à cause de ma foi, à cause que j'ai cru à ça, Dieu m'accepte entièrement. J'ai pas besoin d'ajouter plus. Combien de fois penser que je lis ma Bible, que je prie, ça me rendait plus acceptable devant Dieu. Ah, oh, faudrait que je fasse cette œuvre-là de plus. Ah, oh, puis si j'étais comme lui, hey, lui est hot, c'est un chrétien hot. Moi, je vais être comme lui. Là, on se compare. Ah, oh, lui, là, wow, un homme de Dieu. Dieu doit l'accepter, lui. Non, pas plus que toi en Jésus-Christ. Dieu nous a entièrement justifiés par sa grâce en Jésus-Christ. On a besoin de rien ajouter. L'Évangile est suffisant. Mais c'est une façon de démontrer que l'Évangile n'est pas suffisant. Ou une autre façon, finalement, c'est de juger ceux qui ne pensent pas ou qui n'agissent pas comme nous, non sur la base de l'Évangile, mais sur la base d'observation de règles. On appelle ça le légalisme. Moi, j'ai décidé, devant Dieu, de ne pas toucher à l'alcool parce que je sais qu'il y a des pièges dans l'alcool. C'est vrai. Mais c'est quand tu prends cette règle-là que tu te donnes à toi-même pour te garder du péché, puis tu te mets à l'imposer aux autres. Ha! J'ai écrit, il prend une coupe de vin, mon ami. Il a bu deux bières. Ouf! Lui, il doit être sur le bord, là. Es-tu vraiment sauvé, lui? Et on remet en question l'Évangile dans la vie de quelqu'un sur la base des règles qu'on s'est données pour glorifier Dieu. Ça arrive trop souvent. Trop souvent dans l'Église. Mes règles, je les applique aux autres. Et en l'appliquant aux autres, je le vois agir, je dis, pas sûr qu'il est chrétien, lui. On remet en question le salut et la grâce de Dieu dans la vie des gens parce que les gens ne suivent pas nos règles. Et là, je ne parle pas de péché clairement écrit dans les Écritures. Je parle de règles que des fois on se donne pour se garder du péché puis qu'on voudrait voir les autres appliquer. Alors, on met des règles pour s'empêcher de faire des choses ou puis même faire des choses de plus. J'étais enfant, puis quand j'étais dans l'église, en étant enfant, il y avait un culte le dimanche matin, le dimanche soir, puis le mercredi soir. La réunion de prière, le mercredi, il y avait moins de monde que le dimanche matin. On était 500 dans l'église à Québec, puis le mercredi soir, on était peut-être une quarantaine. Mais nous autres, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis mes parents, ils allaient à l'église à toutes les réunions. Puis là, j'étais à l'école chrétienne avec des amis qui venaient à mon église. « Pourquoi tu viens pas le mercredi soir, toi? » Puis dans un sens, c'était pas comme « encourage à venir à la réunion de prière », mais plutôt « t'es-tu chrétien, toi, finalement? » Nos règles qu'on se donne pour vivre une vie chrétienne, c'est pas nécessairement les règles qui sont dans les Écritures. Faut faire attention pour pas les imposer aux autres. Et donc, le problème qu'on a, c'est de dire que l'Évangile n'est pas suffisant. C'est un évangile basé sur ma performance devant Dieu. Et ça, c'est tellement un piège parce qu'on vit dans un monde où tout est compétitif. On se compare, on veut performer. Puis c'est comme si dans ma relation avec Dieu, j'ai besoin de performer aussi. Puis j'ai besoin d'être meilleur. Mais c'est pas ça que dit l'Évangile. Et dans l'Épître aux Galates, Paul veut rappeler le vrai Évangile afin que les Galates puissent trouver la vraie liberté en Jésus-Christ. Christ apporte la vraie liberté et nous avons besoin de saisir l'Évangile puis l'appliquer à nos cœurs pour qu'on puisse vraiment non seulement le croire et l'annoncer, mais le vivre, cet Évangile-là. Un Évangile qui libère du fardeau de la loi. Un Évangile qui nous permet de vivre pour la gloire de Dieu. Et la vérité, c'est que l'Évangile de Christ est le seul vrai Évangile qui libère. Je peux croire que l'Évangile n'est pas suffisant, mais si je rejette l'Évangile, je rejette le seul vrai Évangile qui libère. Et on voit ça, Paul va l'adresser dès le début de son épître, dans les versets 3 à 5, en mentionnant aux Galates, qu'est-ce que c'est l'Évangile? Et je pense que Paul fait exprès ici pour développer déjà dans l'introduction une présentation de l'Évangile pour leur rappeler tout de suite en commençant parce qu'ils l'avaient perdu. Verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » L'Évangile, Paul le rappelle, et comment il va le résumer? Il va dire que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Donc, Christ s'est lui-même donné pour nos péchés. Si vous voulez dire l'Évangile en une phrase, vous pouvez dire ça. C'est quoi l'Évangile? Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Et là, on peut tout réfléchir, tout ce que ça implique. Ça résume beaucoup de choses, tout ça. Ça implique que je suis un pécheur. J'ai péché. Christ est venu. Il est mort à la croix pour que je puisse être pardonné de mes péchés, pour donner gloire à Dieu par la suite. Et donc, l'Évangile est résumé là et Paul le rappelle. Jésus va même le mentionner dans Matthieu 20, au verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et là, le point ici, c'est que Jésus est venu se donner. Jésus s'est donné lui-même. Et en venant, il venait accomplir la volonté du Père. La volonté de Dieu, c'était que Jésus, le Fils de Dieu, serait le sauveur du monde. Un seul sauveur. Dieu a établi Christ comme sauveur du monde. Et il y a un seul sauveur. Et c'est Jésus, en accomplissant la volonté de Dieu, qui est venu sur la terre pour obéir au Père et accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen qui peut nous sauver que celui que Dieu lui-même a décidé qui était valide. Si je veux être sauvé, j'ai besoin de croire en Jésus-Christ. Et Jésus s'est donné lui-même, il s'est donné volontairement. Il a choisi d'obéir au Père en se donnant lui-même. C'est lui qui est venu pour servir et donner sa vie. Il le fait volontairement. Jésus s'est humilié pour venir prendre notre place et souffrir sur la croix. Donc, Jésus s'est donné volontairement et c'est pour nos péchés qu'il est mort. Jésus s'est donné pour nos péchés. Jésus-Christ est mort parce qu'on méritait la mort à cause de nos péchés. On l'a lu tantôt dans le chapitre 3, verset 10. Celui qui n'observe pas toute la loi est condamné. Condamné à quoi? Condamné à la mort éternelle. Une mort où on est séparé de Dieu pour l'éternité. Et la loi ne peut pas nous sauver, parce que pour être sauvé par la loi, il faut que je lui obéisse parfaitement. C'est impossible d'obéir à la loi de Dieu parfaitement. Personne ne le fait, sauf un. Personne n'a obéi à Dieu parfaitement. Et pour pouvoir être sauvé par la loi, il aurait fallu qu'on soit capable d'y obéir. Mais Dieu a donné la loi, il savait parfaitement qu'on ne serait pas capable. Et la loi était là, puis Paul va dire que c'était un précepteur pour nous conduire à Christ. Dieu a donné la loi pour nous montrer qu'on n'était pas capable d'atteindre Dieu par nous-mêmes. Puis que finalement, Christ viendrait pour être le sauveur, celui que Dieu avait donné pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Et Jésus est le seul sauveur parce qu'il a été le seul à pouvoir observer parfaitement la loi de Dieu. Jésus a vécu une vie sans péché. Et lui n'a pas attiré la malédiction sur lui. Paul va dire dans le chapitre 4 qu'il est né sous la loi pour accomplir la loi parfaitement. Et en accomplissant la loi parfaitement, il devenait un nouveau représentant pour nous qui pouvions être sauvés par lui. Et il a reçu sur lui le châtiment que nous méritions, non pas que lui méritait, mais que nous méritions pour nos péchés. Jésus-Christ s'est donné volontairement pour nos péchés, pour qu'on puisse recevoir le pardon de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile de Christ, c'est que Jésus est le seul sauveur parce que juste lui qui s'est donné en sacrifice pour qu'on puisse être épargné. À la croix, Christ a tout accompli et son salut est complet. Il n'y a pas d'autre moyen d'être déclaré juste devant Dieu que parce que Christ a offert. Et par la foi dans l'Évangile de Jésus-Christ, je suis libéré de la malédiction de la loi. Je suis entièrement pardonné. Et si Christ a tout accompli, j'ai rien d'autre à faire. J'ai rien d'autre à ajouter. Christ a tout accompli. Et lorsque je saisis par la foi ce cadeau de Dieu, Dieu m'accepte. Point final. Dieu m'accepte. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être plus meilleur devant Dieu puis de jouer à la performance, à la compétition avec d'autres chrétiens. Dieu m'accepte. Point final. C'est une grâce qu'on a de la part de Dieu. Et tout changement à cet évangile-là déforme l'évangile, puis ce n'est plus l'évangile. C'est pour cela qu'on a une responsabilité comme chrétien de garder le message de l'évangile. Dans les versets 8 à 10, Paul va dire, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et là, il va dire, est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou la faveur de Dieu? Si je cherchais la faveur des hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Et donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que Paul annonce un jugement sur ceux qui prêchent un autre évangile. Et on peut trouver ça dur, ce que Paul dit. Mais il est tellement convaincu de la véracité de l'évangile de Christ, qu'est-ce que Paul fait? Il va s'inclure lui-même dans cette malédiction-là. Si moi-même j'arrivais avec un autre évangile que celui que je vous ai prêché au début, je suis maudit devant Dieu. Puis il pourrait avoir même un ange qui vient de Dieu qui vous dit d'autres choses, il est maudit. Parce que le message a été donné une fois par Jésus-Christ qui a tout accompli et il n'y a rien d'autre qui va s'ajouter à ça. Ce que Christ a accompli est parfait. Et si même moi je vous annonçais un autre évangile, je vais être maudit. Et donc, c'est important de regarder par l'Église, que l'Église soit alerte aux autres évangiles qui pourraient circuler. Je n'ai mentionné quelques-uns tout à l'heure. Un évangile qui dit, je suis une bonne personne, ça va faire l'affaire. Jésus est bon, mais j'ai besoin d'en ajouter. Ou le légalisme. Tout ça, c'est des autres évangiles. On a besoin de revenir à l'Évangile. Et tous ceux qui annoncent un autre évangile sont maudits. Et on doit veiller à l'évangile que nous annonçons. On a une responsabilité, frères et sœurs. Ce n'est pas juste la responsabilité des pasteurs d'annoncer l'évangile correctement. Vous avez tous la responsabilité de saisir l'évangile, d'être capable de l'exprimer et de le vivre correctement. Et ce qui est conforme, l'évangile doit être conforme à ce que les Écritures annoncent. Il n'y a plus de place à l'erreur dans le domaine de l'Évangile. Et on doit tous chercher individuellement à communiquer clairement l'Évangile. Et vous le savez, Jeff Lorrain l'a mentionné il y a quelques semaines, il y a des exemples d'évangiles qui sont totalement déformés dans des églises partout dans le monde. On parle souvent de l'Évangile de la prospérité, l'Évangile de la libération en Amérique latine, toutes sortes d'évangiles qui font que l'Évangile de Christ n'est pas suffisant, j'ai besoin de me tourner vers un autre Évangile. Et le point ici, c'est qu'on doit être vigilant. On doit être vigilant parce que l'Évangile est d'une importance primordiale. On doit veiller sur l'Évangile qu'on annonce. On doit aussi veiller sur l'Évangile qu'on vit. Une mauvaise compréhension de l'Évangile nous amène à vivre une vie qui nous éloigne du Seigneur et de sa grâce. On l'a mentionné tout à l'heure. Mais on peut réellement vivre maintenant comme des enfants de Dieu entièrement libres. Et ça veut dire en Christ, je suis sauvé et maintenant je vis pour la gloire de Dieu. Mon désir maintenant de plaire à Dieu, ce n'est pas pour être meilleur devant Dieu, mais c'est pour faire les œuvres que lui a préparées d'avance pour moi puis pour lui rendre la gloire. Ça ne changera rien à mon état devant lui. Et on doit vivre cet évangile-là. Vivre qu'on est libéré puis que Christ a tout accompli puis on le vit avec joie pour la gloire de Dieu. Portons pas des fardeaux, frères et sœurs, mais veillons sur l'évangile qu'on annonce puis l'évangile qu'on vit aussi. Et comme je l'ai mentionné, il y a un jugement qui est prononcé sur ceux qui déforment l'Évangile. Ils vont être maudits et on a besoin de s'attacher au vrai Évangile. Et on a la responsabilité de garder l'intégrité de l'Évangile, car le jugement est sévère envers ceux qui déforment l'Évangile. Et ça, s'il y a quelque chose que moi je veux veiller et qu'on veut veiller comme berger dans cette Église, c'est que ce qu'on vous communique d'ici soit toujours conforme à l'Évangile de Christ. Et s'il vous plaît, S'il y a quelque chose qui déroge de l'Évangile dans ce que je dis, venez me le dire. Soyez pas là comme juste les auditeurs qui gobent tout ce qu'on dit. Allez faites comme les chrétiens de Béret, allez vérifier dans les Écritures que ce qu'on vous dit est exact. Puis les chrétiens de Béret, c'était les apôtres qui leur annonçaient l'Évangile. Puis ils allaient vérifier. Combien plus allez voir, vous autres aussi, parce que je suis loin d'être un apôtre choisi par Jésus-Christ lui-même au début. Puis dans un sens, je suis juste là pour annoncer le message de l'Évangile du mieux que je peux. Puis si je déroge, c'est votre responsabilité de venir me le dire. Parce que si vous ne me le dites pas, puis si tranquillement on se laisse aller, c'est là que les faux enseignements viennent. Puis il faut veiller, puis être doublement vigilant, parce que le plus souvent, le danger est au milieu de nous. L'Évangile est déformé. Oui, l'extérieur nous influence, la société nous influence, mais le plus souvent, l'Évangile est déformé au milieu de nous. Ça vient de l'intérieur et on doit veiller à ce qu'on entend, sur ce qu'on entend dans les petits groupes. Est-ce que ça s'éloigne de l'Évangile qu'on a reçu? Quelqu'un prend la parole dans les petits groupes. « Ah, moi, le Seigneur m'a montré quelque chose, puis il partage ça. C'est-tu conforme à l'Évangile? » On doit se poser la question. Il faut tout accepter. Dire « Hey, attends un peu, là. » Peut-être pas le dire devant tout le monde. « Hey, t'es dans le champ, mon ami. » Non, tu vas le voir après, tu lui dis, tu prends le temps d'y dire comme il faut. Puis après ça, peut-être que ça sera sa responsabilité de dire « Excusez-moi, j'avais mal compris quelque chose, puis je vous ai induit dans l'erreur, j'avais mal compris. » Ça sera l'humilité dans ce cas-là qui sera en jeu. Mais on veut être comme ça, avoir une humble orthodoxie dans un sens. On est prêt à rester dans l'Évangile puis à être humble sur l'enseignement qu'on apporte. Mais on doit veiller, puis c'est notre responsabilité. On doit veiller comme ancien à notre enseignement, mais les chrétiens aussi doivent veiller sur l'enseignement qu'ils reçoivent. Et donc, on a tous la responsabilité de veiller sur l'Évangile qu'on reçoit, parce que cet Évangile-là, s'il est tordu, on le perd et on s'éloigne de la liberté qu'on a reçue en Christ. Il n'existe aucun autre Évangile. C'est de quoi qu'il faut vous rappeler ce matin, il n'existe aucun autre évangile, car l'Évangile de Christ est le seul qui sauve et qui libère. Veillons sur nous-mêmes afin de croire personnellement cet Évangile et de vivre une vie de liberté, parce que Christ est notre Sauveur, il nous a rachetés, et maintenant on peut vivre pour lui sans rien ajouter à cette vie-là pour être plus acceptable devant Dieu. Et comme Église, on a la responsabilité de surveiller, de veiller pour qu'on puisse garder cette liberté. Crois-tu que l'Évangile est suffisant pour que tu sois entièrement pardonné et sauvé? As-tu tendance, peut-être que tu es à ce point-là dans ta vie, à voir le salut comme une démonstration de ta performance, comme si tu devais y ajouter quelque chose? Rappelle-toi qu'avec Christ, on est entièrement pardonné. Il t'accepte entièrement. Et l'autre question que j'ai, c'est est-ce que tu as réellement saisi par la foi ce que Christ a accompli pour toi à la croix? Cette œuvre merveilleuse où Dieu a manifesté son amour. Si tu veux vivre une vie libre du jugement de Dieu et avoir un accès à la vie éternelle, tu dois mettre ta foi dans ce que Christ a accompli. Il s'est donné lui-même pour tes péchés. Viens à lui, fléchis le genou, reconnais ton péché, demande-lui pardon. Et lorsque tu le crois réellement dans ton cœur, tu crois qu'il est vivant et qu'il va accomplir ce pardon-là dans ta vie, le Seigneur nous donne cette assurance qu'on va voir l'éternité avec lui lorsqu'on le fait de tout notre cœur par la foi. Dans son livre « Gospel » ou « L'Évangile », il n'a pas été encore traduit en français, J.D. Greer, on l'a entendu à Sola en 2011, présente une prière qui est centrée sur l'Évangile de Christ. Puis il nous encourage à prier cette prière-là chaque jour. J'ai trouvé que c'était une belle prière. J'ai lu son livre dernièrement, ça m'a touché, ça m'a rappelé l'Évangile. Cette prière-là dit ceci. En Christ, il n'y a rien que je pourrais faire qui ferait que tu m'aimes plus. Et rien de ce que j'ai fait qui ferait que tu m'aimes moins. Ta présence et ton approbation est tout ce dont j'ai besoin pour une joie véritable et durable. Comme tu m'as aimé, j'aimerai aussi les autres. Alors que je prie, je vais mesurer ta compassion par la croix et ta puissance par la résurrection. En Christ, il n'y a rien que je pourrais faire qui ferait que tu m'aimes plus. Christ a tout accompli. Par la foi en lui, tu es un fils, une fille de Dieu, entièrement accepté et pardonné. Arrêtons de nous baser sur nos performances, puis vivons la vraie liberté. le vrai évangile de Christ. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout accompli. Merci parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend seulement de toi. Mais je veux réaliser, Seigneur, que j'ai tendance parfois à m'éloigner de ton évangile en pensant que par mes bonnes œuvres, tu serais plus favorable envers moi. Alors que je suis entièrement pardonné, tu m'acceptes, je suis ton enfant et tu me fais du bien de jour en jour. Aide-moi, Seigneur, à vivre cette liberté, à faire en sorte que je n'oublie pas l'Évangile, que je ne le déforme pas pour amener un autre Évangile qui n'est pas l'Évangile. Seigneur, aide-nous, comme Église, à vivre cette vraie liberté qu'on trouve en toi, cette liberté qui nous affranchit du pouvoir de la loi, de la malédiction de la loi et qui nous permet de vivre pour toi et pour ta gloire. Aide-nous à avoir des vies d'adoration pour toi, de jour en jour, qu'on puisse vraiment t'adorer et te louer et vivre cette liberté en toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.